La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Radio B pour La Voix de l'autre. Le 14 novembre, dimanche, c'était la journée mondiale du diabète. Nous avons fêté cette année les 100 ans de la première injection d'insuline. Aujourd'hui, je reçois Sacha. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Sacha a 15 ans, elle est en première au lycée. Sacha est diabétique de type 1 et elle a la maladie cœliaque. Sacha, qu'aimez-vous dire pour vous présenter ?
Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je crois que vous avez déjà dit beaucoup. J'aime beaucoup les langues étrangères, entre autres. J'aimerais beaucoup travailler dans l'humanitaire ou dans la traduction. Et j'aimerais beaucoup voyager dans le futur.
D'accord. Donc, j'ai dit précédemment que vous aviez un diabète de type 1 et la maladie cœliaque, qui sont deux pathologies chroniques auto-immunes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces pathologies et les impacts sur votre quotidien de jeune fille ?
Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie donc auto-immune, comme vous l'avez dit. Elle se caractérise par l'absence de production d'insuline dans le pancréas. Donc l'insuline, c'est une hormone essentielle pour réguler la glycémie, sauf que dans le cas des diabétiques, les cellules qui la fabriquent sont attaquées par les cellules du système immunitaire.
D'accord. Donc du coup, ce qui oblige à ce que cette insuline soit apportée par ailleurs, si elle n'est plus produite par le corps, par le pancréas
Oui, donc il existe deux systèmes, soit la pompe à insuline, soit les injections, donc qui se caractérisent sous forme de piqûres, c'est mon cas. Chaque fois que l'on mange, on fait une dose d'insuline et le soir, pour assurer une dose quotidienne suffisante. Par la suite, on se contrôle pour voir le taux de sucre dans le sang à peu près toutes les 2 heures et avant de manger. Et en ce qui concerne la maladie cœliaque, donc c'est aussi une maladie chronique et auto-immune qui est en fait l'équivalence de l'intolérance au gluten, donc au contact du gluten. Donc le gluten, c'est le blé, le kamut, l'orge, tout ce qui se trouve dans le pain, la farine, les gâteaux, parfois la charcuterie, ça dépend. Mon corps réagit et produit des anticorps, ce qui peut empêcher donc la digestion et lisser la paroi de l'intestin et donc empêcher l'absorption des nutriments.
D'accord. Pour revenir sur le diabète, j'ai précisé que vous étiez diabétique de type 1. Par rapport au diabète de type 2, en fait, la question, je crois, c'est par exemple, dites-moi si je me trompe, les diabétiques de type 2 ne sont pas forcément insulino-dépendants, c'est ça ? Ils n'ont pas forcément... En tout cas, dans un premier temps, à s'injecter de l'insuline.
Oui, alors c'est deux maladies très distinctes, donc je ne connais pas exactement les détails du diabète de type 2. Mais c'est vrai qu'il a surtout tendance à venir à l'âge de... Enfin, quand on est plus âgé. On dit souvent que le diabète de type 1, c'est le diabète des jeunes enfants. Et je crois que l'on peut le traiter avec des médicaments suivant le stade, en fait.
D'accord. Parce que pour vous concernant, vous êtes diabétique de type 1 depuis, vous avez quel âge ?
Depuis que j'ai 2 ans et demi à peu près, donc ça doit faire 12 ans et demi, 13 ans.
Ah oui, ah oui, en effet, donc très jeune. Et vous connaissez du coup les signes du diabète de type 1 ? Qu'est-ce qui a amené à ce diagnostic ?
Oui, alors pour mon expérience personnelle, j'avais ma nounou qui était diabétique, donc... Elle a très vite vu que je buvais énormément, que j'étais très très fatiguée, que j'allais beaucoup beaucoup faire pipi et que j'ai perdu énormément de poids. Donc elle m'a fait une glycémie et elle a vu qu'il y avait un problème puisque j'étais en hyperglycémie, ce qui signifie que j'avais beaucoup trop de sucre dans le sang.
D'accord. Et le diagnostic de la maladie cœliaque est venu après en fait celui du diabète.
Oui, parce que lorsqu'on a une maladie auto-immune, on fait des contrôles réguliers via des prises de sang pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Et je dirais, quand j'avais à peu près 5-6 ans, j'ai donc fait une endoscopie puisqu'il y avait des résultats anormaux. Et on m'a diagnostiqué la maladie cœliaque.
D'accord. Sur votre quotidien, si tant est que vous puissiez différencier les choses, quelle est, je dirais, la pathologie ou en tout cas les contraintes qui sont les plus importantes pour vous, ce qui est le plus contraignant peut-être dans votre vie actuelle de lycéenne?
Je dirais qu'il y a encore quelques années, j'aurais peut-être dit le diabète, puisqu'il fallait se piquer les doigts tous les jours, etc. Cependant, la technologie a beaucoup évolué, donc c'est quand même plus facile. Et plus on grandit, plus on est indépendant, donc ça va mieux. Cependant, le gluten, dans un pays comme la France, c'est assez compliqué, parce que c'est encore assez méconnu, et que ça coûte cher, et que c'est pas facile à trouver. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les établissements scolaires, qui veulent pas forcément me faire à manger. Donc je dirais quand même que c'est la maladie cœliaque qui l'emporte.
D'accord, qui est la plus contraignante au quotidien.
Oui.
D'accord, oui, parce que les produits, c'est vrai qu'on en voit dans les supermarchés, les produits sans gluten, mais ils sont en effet assez onéreux.
Très onéreux, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix non plus, et ce n'est pas forcément très bon, puisque le gluten constitue un liant, et ce qui permet quand même une saveur meilleure que sans.
Oui, puis toutes les recettes, notamment je pensais aux pâtisseries, sont avec de la farine.
Oui, oui. Ouais. Donc c'est quand même un peu de frustration parfois.
D'accord. Vous avez 15 ans désormais, ces pathologies et ces contraintes au quotidien depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous pourriez dire qui vous a aidé jusqu'à maintenant à vous construire avec ces deux pathologies, en fait, avec vous au quotidien? Qu'est-ce qui vous a aidé?
J'en sais pas trop grand-chose. Je dirais que les amis au lycée, au collège, ont toujours été là pour soutenir, etc., quand il y avait des problèmes avec les professeurs ou quoi. Ben après, je sais pas exactement. Je dirais que ça dépend des périodes, mais je crois que je me construis aussi un peu toute seule, donc voilà.
D'accord. Tout. D'accord. C'est pas quelque chose, ces pathologies, elles font partie de vous et c'est pas quelque chose qui est, où ça dépend des moments, trop compliqué à vivre.
Oui, bah il y a parfois des ras-le-bol, forcément, comme dans chaque partie de la vie, je ne sais pas. Mais oui, c'est gérable et il y a bien pire que ça, surtout dans un pays développé comme dans lequel on est, quoi.
Mais oui. Du coup, ça m'amène à mon avant-dernière question. Est-ce que, Sacha, vous vous considérez comme étant en situation de handicap?
Je dirais que le handicap est assez relatif. Dans certaines situations, notamment lorsque j'étais plus jeune, il y a forcément des moments où on se sent différent et rejeté, mais je ne me considère pas en situation de handicap, mais plutôt parfois handicapée par la maladie.
D'accord. Dernière question. Sacha, si vous aviez une baguette magique, un pouvoir de décision et d'action, qu'est-ce que vous changeriez demain pour améliorer le quotidien des personnes diabétiques et cœliaques? Et où, d'ailleurs, cœliaques? Qu'est-ce qui vous semblerait nécessaire d'améliorer
Pour le diabète, je dirais la prévention, parce que sur Internet, dans la vie, il y a énormément de désinformations sur cette maladie. J'ai entendu toutes sortes de choses. On croyait que je me faisais des piqûres de drogue ou bien que mon patch sur le bras, c'était des patchs pour arrêter de fumer. J'avais 10 ans, bon, voilà. Et les remarques des professeurs, souvent. Donc, je dirais que c'est vraiment la prévention, puisqu'on a aussi tendance souvent à confondre le type 1 avec le type 2. Et c'est parfois un peu blessant, quoi.
C'est-à-dire, on peut considérer, dans le sens où les personnes ont un peu l'idée, pas par ignorance certainement, que du coup, vous avez un diabète parce que vous avez bu trop de coca.
Voilà, exactement, comme si on m'avait donné des biberons de glucose quand j'étais bébé. Non, oui, c'est surtout ça. Et concernant la maladie cœliaque, je dirais qu'il faudrait un peu prendre exemple sur nos voisins, comme l'Espagne ou l'Italie, où on trouve énormément de produits à des prix totalement anodins, comme les produits avec gluten, et vraiment commencer à produire plus, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'avant qui soit arrêtent de manger du gluten par rapport à des problèmes de digestion, ou parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas. Et je crois que vraiment, c'est quelque chose d'assez demandé qui, pour l'instant, en France, est très, très peu développé.
D'accord. Ah oui, c'est beaucoup plus développé en Italie, en Espagne. D'accord, on trouve beaucoup plus de produits sans gluten et à des prix plus accessibles.
Oui, parce que par exemple en Espagne, il n'y a pas de rayon spécialement pour le sans gluten, c'est tout mélangé et on peut très bien acheter des produits sans s'en rendre compte qu'ils sont sans gluten, mais c'est marqué et c'est vraiment plus développé, que ce soit pour le gluten, le lactose, etc.
D'accord. Eh bien, merci Sacha pour cet échange. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Non, je crois pas. Merci déjà. Ça sera tout.
Alors, pour ma part, je vais parler d'une association concernant le diabète. C'est l'association d'aide aux jeunes diabétiques parce que, comme l'a dit Sacha, le diabète de type 1 touche des jeunes enfants, parfois des très jeunes enfants, parfois des nourrissons. Et c'est vrai que souvent, les familles dans ces cas-là ont besoin de soutien, d'accompagnement, de rencontrer d'autres parents, d'autres enfants aussi plus grands qui ont grandi avec le diabète. Et du coup, il y a l'association d'aide aux jeunes diabétiques. Leur site, c'est ajd-diabète.fr. Et au niveau local, cette association a une déclinaison locale, l'association Bulle de Môme, qui est l'association des familles d'aide aux jeunes diabétiques de l'Ain et du Rhône. Donc, ils ont un site internet, bulle de môme au pluriel tout attaché.com. Je voulais, avant de terminer cette émission, chères auditrices et auditeurs, vous indiquer le podcast de France Télévisions de l'émission L'œil et la main du 15 novembre 2021 qui s'appelle Permis d'espérer, sur laquelle vous pourrez retrouver Youssef Berkiach et son combat pour obtenir le droit de conduire un bus. Youssef Berkiach était le premier invité de cette chronique au mois de septembre. Donc voilà, je vous conseille cette émission L'œil et la main du 15 novembre 2021. La voix de l'autre est terminée pour aujourd'hui. Je remercie à nouveau Sacha, jeune diabétique et maladie cœliaque, mais surtout lycéenne, d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve le jeudi 16 décembre avec un autre invité extraordinaire. À bientôt. La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.